Radio Classique, les spécialistes.
Alors nous allons commencer par la politique étrangère et après nous allons parler du marché de l'emploi, notamment dans le contexte de l'affaire Bridgestone et les déclarations d'Edouard Philippe qui viennent de sortir. C'est donc vous qui ouvrez le bal, mon cher Emmanuel Faux.
Bonjour Guillaume.
Bonjour. Voilà une drôle d'idée qui ne fait pas rire tout le monde en Indonésie, pays lointain qui nous est peu familier. Face à la flambée de l'épidémie, la police a décidé de faire appel à des bandes de voyous pour faire appliquer les règles sanitaires dans la rue.
Et je vous assure, ça n'est pas une blague, Guillaume. Depuis le début du mois de septembre, les autorités indonésiennes regardent évoluer les chiffres de la pandémie dans le pays. On en est à 225 000 cas déclarés de Covid-19 et plus de 9 000 décès au 15 septembre, ce qui pour un archipel de 270 millions d'habitants n'est pas encore catastrophique. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est que la contagion semble s'accélérer dans la capitale Jakarta. Malgré les gestes barrières, malgré les mesures de distanciation physique renforcées. Résultat d'ailleurs, le maire de Jakarta vient d'annoncer que pas plus d'un salarié sur quatre pourra se rendre à son bureau, dans son entreprise ou dans son administration, car c'est là que les clusters se sont multipliés ces derniers temps. Les écoles et les parcs sont à nouveau fermés. Mais cela ne suffit pas, car la capitale indonésienne est une grande métropole qui compte plus de 10 millions d'habitants sur l'île de Java. Et il y a des lieux comme les marchés couverts où la foule est très dense, où les gens prennent moins de précautions et là, toutes les conditions sont réunies pour une propagation rapide du virus.
D'où cette idée,
voilà, du chef adjoint de la police de renforcer les contrôles, non pas en multipliant classiquement le nombre des agents chargés de veiller au port du masque, comme ça se fait un peu partout, mais en recrutant carrément des gangsters qui auront ainsi mieux à faire que d'agresser ou de voler. Et pour rassurer la population, le commissaire Reddy Pramono, c'est lui qui a eu l'idée, explique que ces voyous, redresseurs de tort, seront surveillés par l'armée et par la police et qu'ils agiront avec humanité. Des voyous antivirus très attentionnés en quelque sorte.
Et que pense le gouvernement indonésien de cette initiative pour le moins originale?
Eh bien, figurez-vous qu'il est ravi. Il trouve formidable de transformer des bandes organisées en brigades du Covid-19. Un ministre va même jusqu'à revisiter la définition courante du mot Preman qui figure dans le grand dictionnaire de la langue indonésienne et qui désigne tout ce qui est malfaiteur, agresseur, estorqueur et qui devient dans la bouche ministérielle une personne travaillant en dehors du système. Qu'en termes élégants, ces choses sont dites. Alors en revanche, la presse indonésienne est vent debout, elle s'étrangle à l'idée que des truands puissent être légitimés par l'État, eux qui sont bien connus de la police et qui opèrent souvent sur les marchés où ils menacent les commerçants pour leur estorquer une sorte d'impôt scélérat. Là, ces voyous reconvertis vont demander aux clients de bien ajuster leurs masques et ils seront eux-mêmes masqués, ce qui ne les changera pas beaucoup.
Il est 7h43, merci mille fois Emmanuel Faux. Déclaration d'Edouard Philippe que vous allez entendre dans le journal de 8h. Il sort de son silence. Je pense que nous allons affronter une tempête économique, une tempête sanitaire, peut-être une tempête sociale. Les temps qui viennent vont être difficiles, nous en parlerons ultérieurement. Mais au-delà de l'affaire Bridgestone et de ces affaires qui concernent la politique, mon cher Dimitri Pavlenko, c'est le moment d'affronter et de donner un certain nombre de précisions sur le marché de l'emploi en France.
Oui, alors sur le marché de l'emploi, j'ai envie de dire presque le marché des licenciements en ce moment. Alors, c'est vrai que ce matin, il y a deux phénomènes. D'abord, il y a la rentrée sociale, vous savez, cet appel à manifester de la CGT qui dit que ce n'est pas aux salariés de payer les pots cassés de la crise. Et puis, il y a, c'est vrai, une espèce d'un coup, une vague de plans sociaux qui s'enchaînent les uns derrière les autres dans des grands noms. Alors évidemment, on a beaucoup parlé avant l'été de Sanofi, de Nokia. Cet été, on a eu Camailleux, il y a eu Air France aussi, Airbus avant l'été, Renault. Et voilà que successivement à la rentrée, ce sont des groupes importants comme Auchan, par exemple. 1500 suppressions de postes chez Auchan. Chez Beneteau, le fabricant de bateaux aussi, 1200 suppressions de postes annoncées. Et donc, Bridgestone, on est à Béthune, dans le Nord, plus de 10% de taux de chômage dans le Pas-de-Calais, pardonnez-moi. Béthune, c'est dans le Pas-de-Calais. Plus de 10% de taux de chômage là-bas, on est donc au-dessus de la moyenne nationale, Bridgestone. 900 salariés quasiment, donc c'est vraiment un coup très très dur pour la ville. Et donc tous les regards se tournent aujourd'hui vers les autorités publiques, vers l'État. Mais que peut faire l'État pour empêcher cela? C'est extrêmement compliqué dans le contexte actuel. Alors on a cette image d'un tsunami de licenciements qui nous arrive dessus. Ça fait des mois qu'on l'annonce, ce tsunami. Un petit peu comme dans les mille et une nuits sera, ne vois-tu rien venir? Et ben on le verrait arriver, ce tsunami. Les chiffres sont parlants. Si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, de mars à août 2019, Donc c'était une bonne année économique, hein, 2019. 231 plans de sauvegarde de l'emploi, PSE, sur cette période-là. 231. De mars à août de cette année, 354. C'est une augmentation de 50% sur la même période en un an. On se dit, c'est absolument énorme. Regardons les chiffres de 2009 maintenant. 2009, on est au pic de la crise financière. On était au minimum sur chaque trimestre de cette année 2009 à 450 PSE sur trois mois, avec même un pic à 600 au premier trimestre de 2009. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même loin de ce fameux tsunami que l'on a connu à cette époque, il y a 10 ans. Alors, comment on peut interpréter ce chiffre? À savoir, est-ce que finalement, les choses ne sont pas si catastrophiques? Soit ça veut dire que la vague de licenciements n'a pas commencé, en fait, soit ça veut dire que le gouvernement a su protéger l'économie par les mesures sur le chômage partiel, cette négociation en cours sur l'activité partielle longue durée, ce dispositif qui implique une négociation dans l'entreprise. Autrement dit, je vous baisse un petit peu votre activité, en échange, je ne vous licencie pas. Voilà. Alors, les deux hypothèses se valent, c'est-à-dire on est peut-être au début d'une vague, peut-être aussi que le gouvernement a su bien protéger, et quand les dispositifs de protection seront levés, là, à ce moment-là, ça va être la catastrophe sociale. Tout le débat aujourd'hui, en fait, il se situe pour les partenaires sociaux qui portent le paix sur ce sujet-là, sur les fameuses contreparties, à savoir, on aide beaucoup les entreprises, on leur demande pas grand-chose en échange. Alors, réponse apportée ce matin par Bruno Le Maire, ministre de l'économie dans le journal des Échos, sur ce sujet des contreparties. Autrement dit, si on aide une entreprise, on lui interdit totalement de licencier. La ligne du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, c'est pas nécessaire de mettre des contraintes, de obliger les entreprises. Pourquoi? Parce que, en réalité, ça risque de bloquer des accords. Et au final, on aura plus de chômage que si jamais on les obligeait. Donc, lui pense que c'est la méthode souple. Il faut des engagements volontaires des entreprises, mais pas de nécessité de contraindre. C'est toute la ligne de fracture qu'on a aujourd'hui entre, d'un côté, le front syndical, et de l'autre, la ligne du gouvernement. Mais ce sont des arbitrages qui sont extrêmement difficiles.
Et voilà Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui répète encore une fois qu'il n'y aura pas dans ce contexte de hausse d'impôts pour rassurer les Français qui pensent au contraire qu'il y aura forcément, avec tous ces engagements financiers de l'État à terme, des hausses d'impôts. Nous allons parler dans le journal imprévisible qui intervient dans un instant de la sécurité, car vous savez que les autorités, qu'il s'agisse de Darmanin, de Nunez ou tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés par la lutte contre l'insécurité en France, pensent que cette insécurité passe par une lutte drastique contre le trafic de drogue. Quelle est la position des politiques par rapport justement à la drogue et plus particulièrement au cannabis? C'est le thème de Renaud Blanc.